100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Paris perdu, le chef du gouvernement italien est donc contraint à partir après avoir perdu son référendum constitutionnel. Matteo Renzi, qui voulait envoyer à la casse toute la vieille garde politique quand il est arrivé au pouvoir en février 2014, se voit finalement délogé. Le score est sans appel, près de 60% pour le non, avec une participation massive. Il faut dire que la plupart des leaders, y compris dans les rangs de la majorité, avait appelé à voter contre des changements constitutionnels qui auraient conduit à une trop forte concentration des pouvoirs dans les mains du président du Conseil. Le non l'a aussi emporté pour d'autres raisons. Non à l'austérité, non à Bruxelles, non au chômage et surtout non à Renzi qui avait personnalisé à l'extrême ce scrutin. Autant de messages qu'ont voulu faire passer les votants. Cécile Debarge est allée à leur rencontre.
Je suis favorable à une réforme de la Constitution, mais celle-là a été proposée à un moment où, pour favoriser des intérêts politiques, on a voulu faire un coup.
Cette réforme a été faite mal et vite pour imposer un ordre de marche voulu par le gouvernement. Mais ce n'est pas vrai que cette réforme permettra d'éliminer le bicaméralisme. Au contraire, elle le renforcera. Car 85% des projets de loi continueront de passer devant le Sénat, sauf qu'aujourd'hui, le Sénat est composé par des personnes élues, alors qu'avec la réforme, elles seront nominées.
On ne peut pas soumettre nos critères constitutionnels aux exigences de l'Union européenne. Ça ne suffit pas de dire que le changement, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est changer, mais en faisant les choses correctement.
On l'imagine, les populistes à la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo ont appelé à des élections immédiates. Des populistes qui, du Brexit aux dernières élections bulgares, ont le vent en poupe. Matteo Renzi était un pro-européen, même s'il paraissait parfois gêné aux entournures par cette image pro-UE. Cette défaite, c'est donc un nouveau coup dur porté aux espoirs de relancer le projet européen. À Bruxelles, on retrouve Johanna Hochstein.
L'Europe se serait bien passée de ce nouveau coup dur après le traumatisme du Brexit en juin, l'élection de Donald Trump aux États-Unis en novembre. Les dirigeants européens craignent d'entrer dans une nouvelle période d'incertitude, tant au niveau politique qu'économique. L'Italie est la troisième économie de la zone euro. Or, l'instabilité politique après la victoire du non pourrait déstabiliser le secteur bancaire de la péninsule, déjà fragilisé. Les plus pessimistes s'inquiètent d'une contamination à d'autres institutions financières en Europe. C'est d'ailleurs pour cela que la Commission européenne avait ces dernières semaines fait toute une série de concessions à Matteo Renzi. Une lecture très accommodante du pacte de stabilité et de croissance pour le budget 2017. Une modification des règles pour prendre en charge à 100% les opérations de reconstruction après les tremblements de terre. Incertitude aussi au niveau politique. Les partis populistes ont le vent en poupe en Europe. Après les Italiens et les Autrichiens, ce sera au tour des Néerlandais, des Français et des Allemands d'aller voter dans quelques mois. Dans les couloirs des institutions européennes, on s'attend à de nouvelles attaques en règle contre le projet européen.
L'Europe, qui n'est pas contestée partout en Autriche, le candidat d'extrême droite pour la présidentielle a finalement été battu par Alexander Van der Bellen, écologiste et pro-européen. L'Union européenne, qui alors que se tient aujourd'hui l'Eurogroupe, dit vouloir lâcher du lest sur l'austérité et donner plus de marge budgétaire aux États. Des centaines de milliers de Syriens ont trouvé refuge en Allemagne au cours des 12 derniers mois. À Munich, certains d'entre eux ont voulu monter un projet pour raconter leur pays et leur culture aux Allemands. Et ce projet, c'est une chorale. Reportage de Pauline Curté.
C'est en quelque sorte leur tube fétiche. L'hymne à la joie, connu de tous les Européens, est aussi l'un des tout premiers morceaux que les membres de la Friedenschor, la chorale pour la paix, ont appris à chanter. Parmi la vingtaine de réfugiés syriens, pas de musiciens professionnels, mais seulement des jeunes âgés de 13 à 24 ans, avec un point commun, l'envie de chanter pour partager leur culture avec les Allemands. Jubin Youssef, 23 ans, est arrivé à Munich il y a un an et demi.
Je me souviens de ma maison à Damas où j'habitais avant de m'enfuir. Quand je chante, je suis heureux. J'ai l'impression de me promener dans les vieilles rues de la ville, de voir la vieille mosquée et l'église. En fait, quand je chante, j'ai l'impression d'être à la maison.
Invités pour des concerts par plusieurs organisations munichoises, les chanteurs portent, lors des spectacles, des t-shirts siglés qui arborent le nom des grandes villes syriennes, Homs, Damas, Alep, etc. Une façon de rappeler à leur audience les horreurs qui se déroulent encore dans leur pays d'origine. Devant leurs spectateurs, ils essaient de garder le sourire, mais il n'est pas rare de voir leur visage se crisper et parfois une larme couler. C'est surtout le cas lorsqu'ils entonnent des chansons traditionnelles syriennes. Ce morceau, par exemple, appelé Jena Jena, est toujours un peu difficile à chanter pour Moaz Al-Aswad, originaire d'Idlib, au nord de la Syrie. À 15 ans, il est le seul de sa famille à vivre en Allemagne.
En fait, Jena Jena, ça veut dire « paradis, paradis ». C'est une chanson qui décrit un endroit dont on rêvait tous en Syrie, mais qui n'existe plus. Cela me fait mal au cœur parce qu'on parle de mon pays d'origine, mais d'autres chansons sont aussi rigolotes, comme « Oma Alte Oma ».
Meine Oma alte Oma. Meine Oma alte Oma, wir kommen von Geisensberg. Mein Liebling, die ich liebe, wartet auf mich im Auto, liebe.
La chorale a été créée il y a un peu plus d'un an. Sans Ahmad Abbas, elle n'aurait sûrement jamais existé. Ce Syrien âgé de 21 ans a quitté la Syrie il y a 4 ans pour être soigné en Allemagne après avoir été blessé par l'explosion d'une grenade dans sa maison à Homs et brûlé sur une grande partie de son corps. Après de longs mois de rééducation, il voulait absolument faire quelque chose pour ses amis réfugiés.
Lorsque j'ai été rétabli, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose ensemble, qu'il ne fallait pas regarder le passé, mais plutôt nous tourner vers l'avenir. Venir sur scène et chanter, cela fait partie de ce processus. La musique n'est finalement pas la chose la plus importante ici. L'important est de se retrouver devant des spectateurs, d'échanger avec eux et de faire en sorte qu'ils nous comprennent. La musique est un outil pour nous mettre en contact avec les gens d'ici et cela marche plutôt bien.
Depuis quelques mois maintenant, la chorale multiplie les concerts à Munich. Elle s'est constituée en association, ce qui lui permet de récolter des dons pour ses futurs projets. Ahmad et la vingtaine de chanteurs ont d'ailleurs un rêve qui, avec un peu d'aide, pourrait se réaliser, aller chanter à Paris et rencontrer les Français.
Et l'émigration de masse, c'est aussi une donnée de fait pour la Moldavie, petit pays le plus pauvre du continent, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. Un Moldave sur trois a quitté le pays. Mais ce n'est pas une fatalité. Des entrepreneurs choisissent de rester pour soutenir leur pays. Sébastien Gobert les a rencontrés.
Ils sont jeunes, dynamiques, optimistes et entreprenants. Ce 11 novembre, plusieurs centaines de Moldaves se sont réunis dans le centre de Chișinău, la capitale, pour une conférence qui affiche clairement son objet « Je choisis la Moldavie ».
Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Ați venit? E cineva în sală?
Dans un pays de 3,5 millions d'habitants, plus de 1 Moldave sur 3 a au moins un pied à l'étranger, que ce soit pour des périodes limitées ou à durée indéterminée. La corruption reste endémique et le système oligarchique semble indestructible. Il y aurait donc de quoi perdre tout espoir. Mais Mariana Turcan, principale organisatrice de la conférence, voit les choses différemment.
Ce genre d'événement rassemble des gens qui n'ont en général pas voix au chapitre. Dans les médias, la plupart des sujets tournent autour des manigances politiciennes, de quelques meurtres ou des accidents de la route. Mais il n'y a pratiquement rien sur les nouvelles initiatives dans la société. Et il y en a beaucoup. Nous avons des personnes fantastiques qui travaillent dur dans ce pays. Mais elles n'ont pas de place dans les médias, à la télévision.
Ce soir, 11 novembre, ce sont 11 intervenants qui ont 11 minutes chacun pour présenter leur projet novateur. du journalisme d'investigation au développement d'un urbanisme accessible aux personnes handicapées, d'initiatives d'échange culturel à la gestion d'un restaurant sans payer de bakchich. Elena Sgardan fait sensation ce soir avec sa plateforme de financement participatif, le crowdfunding Gouverne 24.
So it's a platform.
C'est une plateforme de crowdfunding civique. Nos projets visent à construire notre pays, en commençant par le plus simple. Des infrastructures de base, des canalisations d'eau et des installations sanitaires. Notre premier projet a été de rallumer les éclairages publics dans les rues d'un petit village.
L'initiative avait rencontré un tel succès qu'elle l'avait étendue à 24 autres villages. Une manière simple de changer le quotidien des gens et de combler les déficiences de l'État. Pour la jeune femme diplômée polyglotte, c'est un signal clair, il y a un futur en Moldavie.
Je suis allée à l'étranger très souvent, mais j'ai toujours ressenti ce lien avec la Moldavie. Ici, je vois l'impact direct et concret de mes projets. Ça fait toute la différence pour moi. C'est ici, et seulement ici, que je peux mettre en valeur mes expériences à l'étranger pour m'investir personnellement et voir de réels changements. Ici, beaucoup de personnes voient des problèmes. Moi, je vois énormément d'opportunités.
Georges Teodorescu les voit aussi, ces opportunités. Lui est un entrepreneur roumain installé à Chișinău. Il part d'un constat assez alarmant.
Je suis arrivé ici en 2009. Je dirais qu'environ 70% des amis que je m'étais fait cette année-là sont partis. La fuite des cerveaux est très importante ici.
Il se rappelle l'époque où la Moldavie avait reçu plus de 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Ce n'est plus le cas maintenant. Alors, comment retenir les jeunes ici tout en leur promettant des perspectives économiques ? Georges Teodorescu pense avoir trouvé une solution.
Les salaires dans les technologies de l'information ont vraiment augmenté. Dans le secteur, les rémunérations au niveau mondial, c'est au moins 2-3 000 euros par mois. C'est un bon salaire un peu partout dans le monde. Mais ici en Moldavie, c'est une fortune. Donc l'idée, c'est de garder les informaticiens ici, avec leur famille. On essaie de créer une plateforme.
Georges Teodorescu parle de premier succès dans son entreprise. Malgré tout, on est encore loin d'avoir une Silicon Valley en Moldavie et l'hémorragie des jeunes talents ne devrait pas être stoppée de sitôt. Elena Sgardan en est tout à fait consciente. Mais dans l'émigration aussi, elle veut voir une chance plutôt qu'une fatalité.
Plus de la moitié de nos dons proviennent de la diaspora. C'est très intéressant car cela nous permet de garder un lien avec les gens qui sont partis à l'étranger. Nous leur montrons ce qu'il se passe dans leur pays d'origine et nous leur donnons une chance de participer.
Je choisis la Moldavie, c'est un concept qui ne nie pas la nature du pays. Petit, pauvre, dont la population est historiquement très liée à la Roumanie, à la Russie et au-delà. Établir des passerelles entre la diaspora et le pays d'origine a fortement contribué au développement d'autres pays dans des situations similaires, alors pourquoi pas ici en Moldavie ? Cyril Padouret se présente comme entrepreneur et ambassadeur de Je choisis la Moldavie.
Pour moi, il est très important de soutenir les projets de développement en République de Moldavie. Il faut prendre soin de ce pays et le transformer pour que les choses aillent de mieux en mieux. Cela étant dit, il faut aussi se soucier de sa carrière personnelle. Il y a beaucoup d'opportunités ailleurs. Je me prépare à partir pour le travail, mais je n'abandonne pas pour autant mes projets ici. Je crois en la Moldavie.
L'herbe est plus verte chez le voisin. Les Moldaves savent depuis longtemps que ce proverbe a un vrai fond de vérité, que la vie ailleurs est plus simple, plus confortable. Mais ce n'est que très récemment que certains d'entre eux ont commencé à entretenir leur propre jardin pour verdir l'herbe moldave.
Ich bin Charlie, ich bin ein ehrlicher Junge und trag mein Herz auf der Zunge. Ich bin mit euch durch meine Werte verbunden, funkel wie Kerzen im Dunkeln, heile die schmerzenden Wunden. Sie wollen mich mundtot, doch ich fürchte nicht die Erde von unten. Ich bin Charlie, man bedroht mich mit einer Waffe. Meine Waffen sind ein Stift und ein Papier. Ohne sie wäre ich nicht hier.
C'est une première pour le tristement célèbre Charlie Hebdo. Le journal satirique français s'exporte en Allemagne. Même titre, même rubrique, mais des reportages sur l'Allemagne. Schneider, la rédactrice en chef, a expliqué à Catherine Roland l'engouement pour ce premier numéro outre-Rhin, surtout sur les réseaux sociaux.
On pense que si les gens ont réagi de manière assez positive, les retours sont surtout sur les réseaux sociaux. Et puis dans les médias, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est que les gens essayent vraiment de décortiquer, de comprendre les rubriques, de voir ce qu'il y a dedans. Et la grande surprise pour beaucoup de gens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de textes.
Oui, vous pensez donc, hein, comme Rhys, hein, le rédacteur en chef de la version française, qu'il y a un public, hein, outre-Rhin.
Bah déjà, Rhys, il pense qu'il y a de l'humour partout, même en Allemagne. C'est un peu le défi, mais il faut savoir quand même que Charlie Hebdo, ça ne fait pas rire tous les Français, comme ça va pas faire rire tous les Allemands. Et la question, c'est plutôt, est-ce que ça, c'est l'objectif principal de faire rire? Nous, on pense que les caricatures, c'est très souvent un humour assez noir, c'est-à-dire on n'a pas forcément envie de d'éclater de rire et de se taper sur les cuisses. C'est plutôt voir l'actualité sous un angle particulier. Et donc, je dirais, l'humour, est-ce que c'est vraiment de l'humour français ou est-ce que c'est pas un humour Charlie Hebdo? À savoir si ça s'exporte, on n'en est pas du tout sûr. C'est en Paris, mais on pense quand même que les sujets, surtout dans les papiers, ça peut aussi intéresser les Allemands. Et puis, s'ils apprennent à lire de la BD, de la caricature, ça serait vraiment le grand succès parce que ils n'ont pas cette culture comme en Belgique ou en France où les gens grandissent vraiment avec de la caricature.
Alors pourquoi avoir choisi l'Allemagne comme premier pays européen où Charlie Hebdo s'exporte pour de bon?
L'Allemagne a été choisie surtout parce que le retour après les attentats était tellement énorme et il y avait tellement de solidarité. Donc il y avait des lettres qui ont été envoyées à la rédaction, il y avait beaucoup de manifestations dans un sens où les gens ont déposé des bougies, des fleurs devant l'ambassade française. Et on va dire, on parle toujours du moteur franco-allemand en Europe et que sans ces deux pays, il y a rien qui avance. Et en fait, Charlie Hebdo s'était dit aussi que il y a de quoi à faire en Europe. C'est-à-dire, il faut peut-être regarder un peu hors des frontières. Rhys, il est parti dans plusieurs pays, donc notamment l'Écosse, la Pologne, l'Hongrie et maintenant l'Allemagne, pour faire des grands reportages dans une tradition vraiment de reportage dessiné. Aujourd'hui, je pense que ça a un sens, en fait, de tenter cette aventure.
Alors justement, comment se construit ce numéro et surtout comment est-ce qu'il a été adapté au public allemand?
Disons, on est quand même parti de l'idée de ne pas faire un Charlie Hebdo Allemagne, mais faire un Charlie Hebdo en allemand, parce que ça aurait été un peu, entre guillemets, faux et peut-être pas franc d'utiliser le logo, le nom, en se disant « Ah oui, c'est connu », et puis on remplit la chose avec que des textes des auteurs allemands et de dessinateurs allemands. Parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de mettre Charlie Hebdo, vous pouvez mettre n'importe quel titre, et ça aurait été beaucoup plus honnête finalement. On n'est pas par principe contre une coopération avec des dessinateurs et des auteurs allemands, mais par contre, le caractère d'origine Charlie, ça reste quand même intact. C'est-à-dire, ce sont des dessinateurs de Charlie Hebdo, mais qui se lance à la découverte aussi de l'Allemagne. Et ça, c'était quand même la chose, pour moi, très étonnante. C'est que pas seulement Charlie va en Allemagne, mais l'Allemagne arrive aussi chez Charlie Hebdo. Et donc, du coup, après, on essaie de supprimer un peu les choses trop franco-français et de les remplacer par des contenus plus internationaux.
Alors, vous avez choisi d'écrire sous un pseudonyme. Les questions de sécurité vous ont-elles fait hésiter avant d'accepter le poste proposé par Rhys?
C'était pas forcément la question de sécurité qui m'a fait hésiter, c'était plutôt est-ce que les attentats ont un tel impact que c'est dur de travailler avec les gens. Et ils m'ont accueilli vraiment de manière très très chaleureuse et ça a été un plaisir. Après, la décision s'était prise parce que voilà, à la fois la sécurité est toujours en sujet, donc faut pas se mentir et être naïve. Et donc ces aspects de sécurité, je pensais que je n'aurais pas forcément envie et ni la force ni le temps de, entre guillemets, les affronter comme ça pendant qu'on fait le premier numéro.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Mathieu Salabert. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux dans quelques instants sur RFI. Un nouveau rendez-vous avec l'actualité.